Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme une chronique sur le thème des mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre, et aussi l'interview du consortium international des journalistes d'investigation sur le logiciel libre DataShare. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. La radio dispose également, enfin diffuse désormais également en DAB+, 24 heures sur 24. Donc DAB+, c'est la radio numérique terrestre, avec notamment un meilleur son. Pour capter la DAB+, c'est gratuit, sans abonnement, il faut juste avoir un récepteur compatible avec cette réception. Et les récepteurs DAB+ sont compatibles avec la FM. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références et les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours. Nous sommes mardi 10 mars 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Et si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission, dièse libre à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Voici maintenant le programme détaillé de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de l'April. La chronique s'intitule « Partager est bon » et le thème du jour, ce sera « Mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre ». D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, notre invité du jour, Ludovic Dubost. En fin d'émission, nous aurons l'interview de deux personnes du Consortium international des journalistes d'investigation, consortium qui a reçu récemment un prix du meilleur projet logiciel libre pour le logiciel DataShare dont nous parlerons. À la réalisation de l'émission du jour, Patrick Creusot, bénévole à l'April. Bonjour Patrick.
Bonjour tout le monde, bonne émission, bon après-midi.
Merci Patrick, tout de suite, place au premier sujet. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie, membre du conseil d'administration de l'April et même vice-présidente de l'April. Le thème du jour de la chronique, c'est mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre. La chronique a été enregistrée il y a quelques jours, nous allons la diffuser et on se retrouve juste après. Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Le sujet du jour, mesures à la portée des gouvernements pour promouvoir le logiciel libre et pourquoi c'est leur devoir de le faire. Véronique, on t'écoute.
Oui, Fred, effectivement, il faut prendre son souffle pour lire ce titre qui est quasiment un titre à l'Alexandre Dumas. Si j'avais à faire un commentaire de ce titre très long, je dirais qu'il y a de la part de Richard Stallman, l'auteur de ce texte, la volonté de démontrer que si les gouvernements ayant à leur portée des mesures ne les mettent pas en œuvre, alors il y a une faute morale. C'est-à-dire que les gouvernements ont le devoir de les adopter si ces mesures sont nécessaires dans le cadre du respect et des citoyens et des gouvernements eux-mêmes. Un gouvernement qui se respecte mettra en œuvre ces mesures. Alors ce texte, par conséquent, est beaucoup plus qu'un texte éthique, parce que éthique veut dire simplement avantageux, intéressant, qui obtient le maximum de gains avec un minimum de pertes. Ça n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un texte moral. Alors je dis bien moral et non pas moralisateur. C'est-à-dire que ce texte ne fait pas la leçon. Il est moral au sens où il rappelle que prendre des décisions pour d'autres humains impose des devoirs. Il s'agit de tout faire pour ne pas les nier comme humains. Il faut les respecter. Alors bien sûr, il peut y avoir des bénéfices politiques. Effectivement, peut-être qu'un gouvernement exemplaire reste au pouvoir plus longtemps. Mais il ne s'agit pas simplement d'un texte au sens d'une manière de faire pour persister. Il s'agit essentiellement d'une tâche que le gouvernement va donner à lui-même. Alors je cite, c'est dit dans l'introduction, « La mission de l'État est d'organiser la société avec pour objectif la liberté et le bien-être de la population. Certes, l'État doit aussi veiller à sa souveraineté et à sa sécurité. Il doit aussi faire des économies, privilégier et dynamiser l'industrie locale des services logiciels. Certes, on le voit, l'argumentaire est aussi stratégique, il est aussi économique, mais il est d'abord humaniste, comme le montre d'ailleurs la chronologie des points évoqués. Richard Stallman part de la notion d'éducation. Autrement dit, il pose que les relations de l'État avec le public doivent avoir en vue une souveraineté. Alors, une souveraineté informatique, une souveraineté écologique, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce qu'on appelle le gaspillage, le caractère non recyclable de certains choix logiciels. Il y a bien des considérations d'optimisation. Il va évoquer la neutralité technologique des États, pour d'ailleurs inviter à les dépasser. Alors, quelle teneur de ce qui est proposé pour l'éducation? Pour la philosophie GNU, il s'agit de n'enseigner que le logiciel libre. Alors, bien sûr, il y a un bénéfice secondaire qui n'est pas mince, à savoir ceci garantit l'avenir politique d'une nation. Mais au-delà de ce bénéfice secondaire, il y a surtout le devenir autonome des individus. Voilà ce qui est indiqué. Enseigner un programme non libre revient à enseigner la dépendance, ce qui est contraire à la mission de l'école. Alors, partie de ce foyer qu'est l'émancipation, il y a un deuxième point qui examine cette fois les relations de l'État avec le public. Alors, on évoque des politiques publiques qui sont souvent cruciales. En effet, lorsqu'on utilise le logiciel libre, il y a des conséquences pour les individus et pour les organisations. Et donc, il est très important de ne pas obliger les particuliers à utiliser un programme non libre. Sinon, ça veut dire qu'il y a une rupture d'égalité devant le service public. Il se trouve que j'ai eu l'occasion d'en parler au défenseur des droits actuel, qui est très sensible à cette question de l'équité des citoyens devant l'État.
Précisons que
s'agit absolument de Jacques Toubon. D'où la proposition de ne distribuer que du logiciel libre, y compris lorsqu'il s'agit de logiciels utilisés à l'école. Alors, récemment, il a été question, dans différentes tribunes, de matériel distribué déjà prédéterminé pour aller vers du logiciel non libre. Il a été question aussi de sites web de l'État. Il serait fondamental d'y accéder seulement avec des logiciels libres. Bon, il se trouve, je donne un exemple, que comme enseignante, on m'a proposé d'utiliser un programme qui est Educarte. Educarte qui propose aux enseignants, pour leur classe, de disposer des missions éducatives. Or, expérience amère, malheureuse, il se trouve qu'avec Educarte, il faut utiliser Flash. Ce à quoi je n'ai pas pu me résoudre, donc j'ai écrit à Educarte et mon courrier est en attente de réponse. Pourquoi, par conséquent, proposer des formats et des protocoles libres, non seulement les protocoles de communication, mais aussi les liseuses qui interviennent dans les bibliothèques, dans les établissements scolaires, sont encore à libérer. Il y a beaucoup de travail à faire pour y parvenir, puisqu'il s'agit de libérer les ordinateurs des licences. Mais là encore, lorsque ce point est évoqué dans le texte, c'est la plupart du temps la vente liée qui prévaut. Donc ce n'est pas simplement une question d'argent. Cette contrainte est inique d'imposer, d'utiliser des ordinateurs avec des licences. Et en plus, certains dispositifs empêchent le recyclage, le reconditionnement des ordinateurs de seconde main. Et en ce sens, l'État doit se mobiliser pour parler d'indice de réparabilité, pour parler de recyclage et de cohérence écologique. Le point qui est examiné ensuite est celui de la souveraineté informatique. Il est précisé que l'État doit garder la main sur ce qui le concerne. Sinon, il est subordonné à des entités privées. Migrer vers le logiciel libre est ainsi un axe fort à cette même antenne. Il a été question de la migration de la gendarmerie nationale vers le logiciel libre, ce qui permet donc de développer des solutions informatiques tout à fait cohérentes lorsqu'un État est un État qui s'impose le devoir de respecter ses citoyens. D'où, deuxième point, il se trouve que souveraineté informatique est traitée doublement. Il y a dans ce texte une préconisation du contrôle de l'État sur les tâches qui sont de son ressort. C'est-à-dire que l'État doit contrôler ses ordinateurs et maîtriser si l'ordinateur n'est pas portable, le lien qui permet son utilisation. Il faut influencer, par conséquent, le développement du logiciel libre, ne surtout pas encourager le logiciel non libre. Il y a parfois des contrats étonnants qui sont passés entre les États et les GAFA. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure du gaspillage. Vous avez le rappel en fin de texte que les ordinateurs, pour ne pas être mis au rebut, doivent pouvoir être débloqués et surtout ne pas être verrouillés par des dispositifs qui rendraient impossible l'installation d'un logiciel libre. Le dernier point est tout à fait inspirant pour le professeur de philosophie que je suis, puisque dans ce texte, on parle bien de neutralité technologique, mais on dépasse aussi cette expression. Je cite, « Il est dit que l'État ne doit pas imposer de préférences arbitraires sur des choix techniques, mais pour autant, il ne doit pas être neutre au sens d'indifférent. L'État ne peut pas être indifférent. » Je cite, « Seuls ceux qui désirent mettre un pays sous leur joug pourraient suggérer que son gouvernement soit neutre en ce qui concerne sa souveraineté et la liberté de ses citoyens. » Il y a des formes de neutralité qui sont des formes de refus de se pencher moralement sur le respect des citoyens. Autrement dit, et là je me réfère à deux expressions d'Alexis de Tocqueville dans « De la démocratie en Amérique », il y a pour les gouvernements des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Et par exemple, l'April peut en être le vecteur.
Eh bien, écoute, merci Véronique. Je vais préciser que la Gendarmerie nationale, ben, les gens qui veulent écouter le podcast, c'est l'émission du 3 septembre 2019, l'émission 34. Et pour la partie gaspillage, recyclage, nous avons consacré une émission à la loi anti-gaspillage le 7 janvier 2020, c'est l'émission 48, donc que vous pouvez retrouver sur april.org ou sur causecommune.fm. C'était la chronique Partagé et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et vice-présidente de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
Très belle journée à toi, Fred.
Nous sommes en direct, nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Oh Boy par Wario Lutra Lutra. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Oh boy, you're taking the wrong road. Do you know how fast it goes? Oh God, are you drunk enough now? The daylight and your head on fire. Now the dream is over. Do you remember? Do you remember? Books and see it's gone.
D'écouter Oh Boy par Wario Lutra Lutra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France, en DAB+, 24 heures sur 24, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, et on va passer au sujet principal de l'émission du jour. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki, notre invité Ludovic Dubost. Bonjour Ludovic.
Bonjour Frédéric.
Alors le logiciel libre est caractérisé par les quatre libertés que l'on connaît, liberté d'utilisation, de comprendre le fonctionnement, de modifier le logiciel et de le redistribuer dans sa version originale ou dans sa version modifiée. Mais libre ne veut pas dire forcément gratuité. Les modèles de financement de logiciels libres sont variés. On en a déjà un peu parlé dans l'émission notamment consacrée au lecteur multimédia VLC. Et aujourd'hui, nous allons parler du fonctionnement, du financement de logiciels libres avec un retour d'expérience de la société XWiki. Nous consacrerons d'autres émissions à la même thématique, car en fait, les modèles sont très variés, les retours d'expérience sont très variés. Mais l'avantage de XWiki, c'est un retour d'expérience sur une quinzaine d'années. Donc avec Ludovic Dubost, créateur du logiciel XWiki, PDG de la société XWiki SAS qui développe XWiki et CryptoPad, dont nous allons parler également, membre également du conseil d'administration d'Open Food Facts, dont nous avons déjà parlé dans l'émission Libre à vous. Alors première question déjà Ludovic, une petite présentation personnelle, quel est ton parcours et comment tu es venu au logiciel libre et à créer un logiciel libre et une entreprise du logiciel libre ?
Mon parcours, c'est que je travaille dans l'informatique maintenant depuis 25 ans. En fait, j'ai été passionné d'informatique très tôt. J'ai eu un Apple IIc. J'ai commencé à programmer un peu dans mon temps libre. Ensuite, j'ai fait des études d'études d'ingénieur et puis en fait j'ai découvert Internet lors d'un stage dans la Silicon Valley en 1995 et en fait quand je suis revenu en France, j'ai voulu absolument travailler sur Internet d'abord et donc ça m'a amené en fait à d'abord trouver un job chez Capgemini, puis en fait j'ai été débauché par Netscape. Et donc j'ai travaillé 2 ans et demi chez Netscape au consulting, à aider à mettre en place les logiciels serveurs de Netscape, serveur web, j'ai commencé à toucher un peu au logiciel collaboratif dans cette optique-là. Mais j'ai surtout vu chez Netscape en fait une concurrence exacerbée entre Microsoft et Netscape. J'ai aussi vu l'émergence de Mozilla. En fait, j'avais même candidé pour travailler pour Mozilla quand j'ai quitté Netscape. J'ai dit je ferais bien ce job-là, et puis finalement ils me l'ont pas proposé. Il y avait que 5 personnes qui bossaient sur Mozilla à l'époque, et donc finalement j'ai quitté. J'ai bossé dans une start-up française qui faisait de la mesure d'audience de sites internet. Et en fait, je suis resté 3 ans dans cette société qui a été une start-up qui a un peu tout le profil. C'était une des premières sociétés françaises à rentrer en bourse avec quasiment pas de revenus et qui a explosé dans la bulle internet. J'ai été un millionnaire virtuel parce que j'avais 1% de la société comme stock option au départ. Donc c'était vraiment la start-up parfaite. Et en fait, en sortie de ça, ça m'a fait pas mal réfléchir. J'ai démarré dans le logiciel libre plus sur la problématique de technologique. C'est-à-dire que j'ai vu qu'en 5 ans, les décisions que j'avais prises en tant que directeur technique de cette start-up, le logiciel libre les aurait changées fondamentalement. C'est-à-dire qu'on aurait, plutôt que des bases de données Oracle et des serveurs Sun, on aurait mis du Linux, du MySQL et ces technologies qui ont émergé, ou des choses comme JBoss qui se sont lancées à ce moment-là, ou Red Hat. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de très fort là-dedans, donc une opportunité. Et donc j'ai décidé de créer la société XWiki sous forme de logiciel libre. Et puis alors il y avait un aspect idée, hein. J'avais envie de créer une société, j'avais envie de créer quelque chose dans le partage de connaissances, chose que j'avais fait chez Netscape. Et donc je me suis lancé dans XWiki. Et donc j'ai décidé de le faire sous forme de logiciel libre. Mon premier contact au logiciel libre était plutôt sur ça a l'air d'être quelque chose de très intéressant qui marche, et ça avait l'air d'être quelque chose qui marche, et donc j'ai voulu me lancer là-dedans.
D'accord. Alors, très bonne introduction, et j'apprécie notamment le passage par rapport à la bulle Internet qui t'a appris un certain nombre de choses que tu as sans doute ensuite mises en application. Alors, j'avais oublié de préciser que si vous souhaitez participer à notre conversation ou poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Le salon, c'est dièse libre à vous. Il y a déjà Marudil qui fait un petit commentaire sur la réponse du Ludovic. Donc ça c'est présentation personnelle. Tu vas commencer un petit peu à parler de XWiki. Alors on va en revenir évidemment dans la suite de notre échange, parce que c'est le retour d'expérience sur XWiki. Mais est-ce que rapidement tu peux nous dire quand est-ce que la société a été créée, un petit peu le domaine d'activité, le nombre de personnes dans l'équipe, en quelques mots?
Alors j'ai créé le logiciel en 2003, j'ai créé la société en 2004, quasiment dans la foulée. Donc c'était un projet commun en fait, créer un logiciel et une société. Donc elle a 15 ans aujourd'hui. On est 40 personnes, 50% en France, 50% en Roumanie. On fait environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires autour du logiciel XWiki. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des logiciels collaboratifs. L'objectif, c'est d'aider les gens à partager l'information et à collaborer. Et on en fait 2. Alors, c'est historique, hein. XWiki, c'est le premier. Donc, c'est moi qui l'ai créé au départ. Et aujourd'hui, il est développé par une équipe permanente sur le sujet. Son objectif, c'est d'aider le partage de connaissances, que ça soit en interne ou en externe. Donc, on a aussi bien des sites publics de type Wiki que des sites d'entreprise de partage de connaissances internes, des bases de connaissances, voire des sites collaboratifs. On est aussi utilisé par le logiciel XWiki, par exemple, utilisé par Amazon. qui a ses propres problèmes en tant qu'acteur du logiciel libre, enfin en tant que moi acteur du logiciel libre, je vois des problèmes autour des sociétés comme Amazon, mais c'est un utilisateur d'XWiki qui a choisi XWiki pour faire son intranet en mode wiki. Et puis on fait un deuxième logiciel qui s'appelle CryptPad. Alors sa particularité à CryptPad, c'est d'être un logiciel entièrement chiffré. Et il a pour objectif de permettre le partage d'informations, mais en respectant la vie privée et en protégeant les informations.
D'accord. Alors, CryptPad, on en parlera en fin d'émission si on a le temps, mais on essaiera de trouver le temps. Là, on va se concentrer sur le retour d'expérience, notamment de XWiki. Donc, avec un sujet, donc on va pas rentrer dans le détail sur ce que fait XWiki, parce qu'on pourrait y consacrer une émission entière à ça, mais on retient que c'est un outil de logiciel collaboratif, utilisé par des entreprises, par des collectivités, peut-être pas orienté grand public, je ne sais pas.
Non, il y a pas beaucoup de grand public qui utilise XWiki. Il y en a un petit peu. On a des sites open source qui utilisent XWiki, donc il peut y en avoir,
mais c'est pas la cible principale.
C'est plutôt de l'organisation.
D'accord. Et donc on va parler principalement du financement du libre. Comment XWiki finance ? Et déjà la première question. En introduction, j'ai rappelé que logiciel libre et gratuité, c'était deux choses différentes. Donc pourquoi aujourd'hui le financement du libre est un enjeu ? Pourquoi c'est important et est-ce que tu peux peut-être présenter rapidement quelques modèles de financement de logiciels libres et peut-être les difficultés ou ce qui manque, c'est-à-dire en introduction déjà générale.
Alors le truc c'est que quand moi en tant qu'acteur du logiciel libre j'y vais parce qu'il y a un aspect technologique, parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne, et j'y vais aussi petit à petit d'ailleurs, pas forcément au début, par conviction. C'est-à-dire que c'est important que les choses soient libres. Alors au départ, conviction liée à la souveraineté. Si on veut réussir des sociétés de logiciels en Europe, il y a peut-être quelque chose qu'il faut changer par rapport aux règles de concurrence avec les Américains. J'avais vu Netscape se faire massacrer par Microsoft. Donc ça posait des vraies questions sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui peut marcher pour une société européenne. Moi, j'avais pas envie d'aller aux États-Unis, j'avais envie de rester en France. Et donc, je me suis dit, faut changer les règles du jeu. Donc, il y avait un aspect souveraineté. Économiquement, si on veut réussir, l'arme du logiciel libre est une arme très intéressante pour l'Europe. Ensuite, j'ai découvert plus. J'ai découvert ce que dit la FSF,
la Fondation pour le logiciel libre,
la Fondation, la Free Software Foundation. Et où, en fait, il y a un aspect contrôle de l'individu sur le logiciel libre. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui me touchait aussi. Et je trouvais intéressant. Alors maintenant, le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, ça serait vachement bien qu'il y ait du logiciel libre. On dit, mais comment on en vit ? Et comment on gère la contradiction entre le fait que si on diffuse un logiciel sous licence libre, il est quelque part gratuit. Il n'est pas obligatoirement gratuit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout faire gratuitement, nous, en tant qu'éditeur, en tant que personne qui produit le logiciel, mais le code est là, il est gratuit. On accepte la concurrence de toute personne qui viendrait se brancher sur ce code pour construire quelque chose de plus. Alors comment on gère cette contradiction entre, d'un côté, on libère de la concurrence, et de l'autre côté, il faut bien qu'on vive et qu'on paye les personnes. Et j'ai découvert au fur et à mesure du démarrage du business XWiki, d'abord un, les gens qui me posaient la question, mais pourquoi ça va marcher votre boîte si elle est en logiciel libre? Donc comment répondre à ces questions-là? Et puis que ça soit des gens qui disaient on présentait des dossiers, ils disaient mais pourquoi votre boîte va marcher? Ou des clients qui disaient mais pourquoi votre logiciel va marcher?
On va rappeler etc. que c'était dans les années 2000, 2003, 2004, donc à une époque où le libre était encore moins compris qu'aujourd'hui. En
plus. C'est ça, aujourd'hui il est beaucoup plus compris, mais moi j'ai eu toutes les questions sur pourquoi ce logiciel il va fonctionner quoi. Donc on pouvait donner des exemples d'autres sociétés etc. Mais alors il y avait quelques avantages à faire du libre. Par exemple quand on vous disait qu'est-ce qui se passe si vous crevez, mais je disais le logiciel il sera toujours là. Et ça c'est un vrai avantage. À partir du moment où on avait aussi un autre avantage, c'est que quand on faisait du commerce, quand on venait présenter le logiciel, on pouvait montrer des références, puisque finalement en diffusant le logiciel sur internet, on avait des gens qui se mettaient à l'utiliser, y compris des gens connus. Moi on a eu Oracle qui a utilisé XWiki, je l'ai utilisé. Aujourd'hui j'utilise le fait qu'Amazon utilise XWiki. Ça crédibilise le logiciel. Alors ça c'est un vrai avantage au niveau business de pouvoir crédibiliser son logiciel par ça. Par contre, il reste toujours le problème de comment on négocie le prix, qu'est-ce qu'on vend si le logiciel est gratuit. Et je l'ai vu, moi je l'ai découvert petit à petit, on a vu ces problèmes-là et ces difficultés. Quand on embauche des commerciaux, le commercial il est là, c'est quelqu'un qui est là pour vendre et pour gagner de l'argent. dès qu'ils voient une difficulté pour gagner de l'argent, ils commencent à se dire oh là là, c'est ennuyeux, ça m'embête, ça, c'est, oui, parce que j'y arrive pas, etc.
Je suppose que t'as embauché des commerciaux, des commerciales qui avaient l'habitude de vendre entre guillemets des licences. Ce qui est plus simple à vendre que là, il fallait vendre un modèle de financement différent.
Alors moi, ouais, XWiki a eu un très bon commercial qui venait du logiciel propriétaire, mais qui comprenait finalement très bien aussi le logiciel D'accord. libre et qui était intéressant. Et puis on a eu un commercial très jeune qui finalement n'avait pas de préexistence de métier avant. Mais quoi qu'il en soit, on voit que la vente de logiciels libres, ça se fait pas de la même manière. C'est-à-dire qu'on vend pas le logiciel libre de la même manière qu'on vend du logiciel propriétaire. Mais tu as cette contradiction de qu'est-ce qu'on vend et comment on, la relation entre le fournisseur de logiciel libre et le client est pas en faveur du fournisseur dans la négociation, puisque le client il peut dire moi je paye pas. Alors c'est quelque chose qui est important dans les avantages du logiciel libre pour les clients, donc ça peut amener les clients à s'y mettre, mais finalement ils sont pas obligés de payer, ils peuvent utiliser le logiciel gratuitement, etc. Et moi j'ai des expériences où il y a des gens ils veulent non seulement le logiciel gratuit mais ils voudraient aussi le service gratos, quoi. C'est-à-dire pourquoi vous me répondez pas à toutes mes questions, ouais. Comment j'utilise le logiciel, etc. Et votre logiciel il est pas assez bien, il lui manque ci, il lui manque ça. J'ai dit très bien, il lui manque ci, payez, on va vous le faire. Et là tout de suite on sent de temps en temps chez certaines personnes une sorte de réticence une réticence à finalement participer au financement du logiciel. Et donc il y a ces questions de contradictions qu'il faut traiter et donc c'est un peu pour ça que moi je m'intéresse à cette problématique de financement et on a mis en place tout un tas de méthodes assez intéressantes justement pour essayer de travailler et d'expliquer aux utilisateurs le fait que le logiciel libre n'est pas gratuit. En fait c'est quelque chose qu'il faut expliquer.
Alors, un point qui est intéressant et que dans la préparation il y a un mot qui est revenu, c'est l'éthique, et je pense que c'est un peu paru dans ce que tu expliquais au début, c'est que toi, tu as choisi un modèle. Alors, on va pas rentrer dans le détail forcément des licences, des explications, mais tu as choisi un modèle qui est vraiment logiciel libre avec une licence libre par rapport à d'autres modèles, notamment les modèles freemium. Alors, peut-être que tu pourrais un petit peu expliquer justement ce que sont ces fameux modèles freemium qui se développent et qui sont un piège aujourd'hui pour les structures qui vont avoir recours à ces prestations.
Alors, il y a beaucoup de modèles, il y a beaucoup de licences et de modèles de business. Et parfois, les modèles de business sont liés à la licence. Parfois, ils ne le sont pas forcément. Alors, nous, on a fait un choix. C'est que en interne, nos employés, ils ont envie de faire du libre. C'est ce qui les motive, et donc si on leur explique qu'on va faire des parties propriétaires dans ce qu'on fait, ils disent on se reconnaît plus dans une société de logiciels libres. Et donc il y a cette contradiction, on la vit aussi en interne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait, comment on fait fonctionner. Alors des business models, il y en a plein. On peut parler par exemple des business models utilisés par les sociétés les plus capitalistiques, les plus capitalistes. Donc celles qui reçoivent des investisseurs et des VC qui veulent que
VC
venture capitalist, ils veulent 10 fois de croissance, ils veulent des
croissance à deux chiffres,
dix fois la valeur que ce qu'ils ont mis au départ, etc. Et là ce qu'on voit c'est que ils mettent beaucoup d'argent, ils donnent du logiciel libre, mais en fait derrière soit ils construisent une offre propriétaire par-dessus le logiciel libre.
Et avec les fonctionnalités les plus intéressantes dans la version propriétaire et
ça.
Non pas dans les versions
libres. Voilà. Et il y a plein de tricks, donc on peut avoir l'impression des tricks dans le sens
des astuces,
c'est-à-dire que finalement on fait croire à l'utilisateur qu'il a un logiciel qui est complet, et en fait l'utilisateur au bout d'un, en fait quand il arrive au moment où il veut vraiment l'utiliser sérieusement, il se rend compte qu'il manque plein de trucs. Et qui sont hyper importants pour lui.
Et donc, sa personne est obligée d'utiliser la version
privatrice. Et là, voilà, il doit passer à la version propriétaire. Et là, il se retrouve exactement dans la même situation qu'un logiciel propriétaire, c'est-à-dire dans la situation où lui, il n'a plus de pouvoir du tout, l'utilisateur. C'est-à-dire que c'est l'autre qui décide combien ça coûte. Alors, il peut décider de rester sur la version libre. Et il y a toujours cette partie libre qui est là. Et ça, il faut reconnaître que c'est extrêmement positif pour le monde du logiciel libre. Elasticsearch est un bon exemple. Ouais. C'est un super logiciel.
Qui permet de faire de l'indexation et de la recherche.
Ouais, de la recherche, des analyses statistiques, etc. Nous, on l'utilise aussi. Là, on utilise la version libre. Mais si on veut sécuriser correctement Elasticsearch, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien d'Elasticsearch.
Sécuriser d'un point de vue technique, tu veux dire ?
sécurisé, oui. Mot de passe, droit, droit sur les données, etc.
D'accord.
Donc quand et d'ailleurs,
il y a eu un bug récemment.
Ben oui, voilà. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple où moi je considère que c'est de la responsabilité de la société d'avoir volontairement mis en place une plateforme non sécurisée. C'est-à-dire que c'est volontaire qu'elle soit non sécurisée pour que les fonctionnalités sécurisées soient vendues. De sécurisation soit vendue et on se retrouve avec des données qui sont leakées sur Internet. Alors, parce qu'il y a des gens qui ont mis des Elasticsearch
voilà, avec des
datas.
C'est des données qui ont été fuitées. Alors je crois que c'est une structure publique, mais j'ai pas le nom en tête, mais je crois que le site Next Impact en a parlé. Mais les personnes qui ont mis en place le site ne savaient pas justement qu'il y avait ce problème d'absence de sécurité, et donc ces données ont fuité. Et donc toi, tu penses que la responsabilité, évidemment, c'est la responsabilité d'Elasticsearch.
Il y a une responsabilité du fait que volontairement ils mettent pas la fonctionnalité de sécurisation. Et donc et ils le font pour de bonnes raisons, parce qu'ils le font pour avoir quelque chose à vendre. Ce qui est légitime quelque part, c'est légitime qu'ils aient quelque chose à vendre. Par contre, c'est complètement occulté. C'est-à-dire personne, ils vont pas expliquer. On n'a pas sécurisé le truc pour que vous achetiez la version sécurisée. L'objectif, c'est de diffuser au maximum le logiciel en version gratuite, donc c'est du freemium.
Donc c'est ce qu'on appelle le freemium.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le freemium. Et puis, par contre, c'est un peu un freemium. Il est un peu pas hypocrite, mais on cache.
Il
est caché. Mais ça existe aussi dans les modèles SaaS. Hein. Slack, c'est gratuit. Et puis du
Alors, modèle SaaS, explique ce que c'est qu'un modèle SaaS.
Alors, un modèle SaaS, c'est je fais un service en ligne gratuit sur Internet.
C'est logiciel comme service.
C'est ça. Je fais un logiciel comme service sur Internet. Donc, Slack est un bon exemple, qui est un grand succès.
Alors, Slack, c'est un outil de chat. Voilà,
De discussion. Entreprise.
D'organisation, discussion voilà, entreprise.
C'est un concurrent de Skype, en fait, qui a un peu pris la main sur Skype aujourd'hui. Il y a des alternatives libres, Matrix Riot par exemple, Mattermost, qui sont très très bien.
Alors tous les noms techniques qu'on va citer, on va essayer d'expliquer un petit peu, mais sinon on mettra des liens sur le site de l'April et sur le site de Cause Commune. Oui.
Ouais. Et donc Slack, c'est un logiciel qui est gratuit. En fait, si vous échangez plus de 10 000 messages, ils sont plus dans votre recherche. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'archivage au-delà de 10 000 messages. Mais du jour au lendemain, ils peuvent décider de changer leurs règles, c'est-à-dire que s'ils décident à partir de demain, il y a plus de d'ouverture de Slack gratuit en fait, il y a un problème d'éthique dans tous ces modèles en fait, dans le fonctionnement de ces modèles libres, de ces modèles freemium, qu'ils soient libres ou pas libres, avec du logiciel libre ou sans logiciel libre, il y a un problème éthique qui est le fait de pas dire ce qu'on a planifié de faire, c'est-à-dire l'objectif, c'est d'avoir un maximum de diffusion, un maximum d'utilisateurs, et en fait, plus tard, on va monétiser ces utilisateurs. Et on dit pas comment on va le faire, mais on sait très bien comment on va le faire. On pourrait dire que Facebook, c'est exactement la même chose. Partager sur Facebook, c'est génial, c'est super, etc. Et puis maintenant, boum, le système de tracking universel qui mate toutes nos données et avec des services de plus en plus intrusifs qui utilisent de plus en plus de données. Au départ, ils n'y étaient pas, ces services. Donc, en tant qu'utilisateur, vous ne rendiez pas compte du problème. Et maintenant, tout le monde est OK. Et en fait, on n'arrive plus à en sortir. Ils ont pris le marché et on n'arrive pas à sortir du système. Donc, ces modèles freemium, ils existent. Nous, petit à petit, ils nous convenaient pas. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas de cacher des choses à nos utilisateurs.
Toi, si je comprends bien, il y a un point essentiel, c'est... comment financer du libre tout en gardant l'éthique du libre, en fait, quelque part. C'est ce que j'ai l'impression de comprendre.
En étant éthique, oui, parce que
et en respectant les structures utilisatrices de ton produit.
C'est ça, c'est-à-dire de respecter nos utilisateurs, les gens à qui ont fait la promo de notre logiciel libre gratuitement et qui nous ont apporté plein de bénéfices, les contributeurs qui nous ont donné du code. Moi, quand j'ai démarré XWiki, il y a des gens, ils m'ont donné du code gratos. Juste comme ça là pour m'aider parce qu'ils trouvaient ça sympa. Demain je ferme tout, je ferme mon logiciel, moi je me sens pas bien en tant que là, c'est bien, c'est super, c'est du business, mais c'est pas de l'éthique. Donc nous on veut garder cette éthique.
D'accord.
Alors donc il y a des méthodes et il y a plein de méthodes. Alors on peut peut-être passer un peu
alors,
à ces méthodes.
On va en parler des méthodes. Juste une petite réaction sur une des peut-être difficultés dans les financements. Tout à l'heure j'ai des projets libres et des logiciels libres. J'ai évoqué le cas de VLC. Parce que là, on va parler d'outils d'entreprise plutôt. Il y a une problématique du financement des ce qu'on va appeler des logiciels utilisation finale pour l'utilisateur type VLC et autres. Ça, c'est une problématique que t'as étudié pour le ou pas du tout.
Oui, alors nous on n'est pas allé vers le grand public.
Voilà, c'est un choix volontaire.
C'est un choix volontaire. c'est ce qu'on a fait comme choix avec Kitsuki. Maintenant, Creepypad, il va vers le grand public.
Oui, ouais, c'est ça.
On en parlera.
D'accord.
Creepypad, il va vers le grand public et pour plein de bonnes raisons. C'est plus par rapport à l'usage du produit Kitsuki qu'il va plus vers l'entreprise et l'organisation que vers le grand public.
D'accord.
C'est pas forcément un choix personnel ou d'avoir absolument envie de faire de l'entreprise ou absolument envie de faire du.
D'accord.
De pas faire de grand public.
Et quand on parlera de Creepypad, on verra qu'il y a des modèles de financement qui dépendent justement de la cible aussi.
Et les problèmes de financement d'un VLC ou d'un Kitsuki ou d'un Creepypad sont pas du tout les mêmes. Et il y a pas un modèle de financement valable pour tous les logiciels libres. Il y a plein de logiciels libres différents et donc il faut vraiment adapter. Donc moi, après l'expérience que je peux présenter par rapport à Kitsuki, par rapport à Creepypad, elle est valable pour nos types de logiciels. Elle sera peut-être pas valable pour tous les types de logiciels.
D'accord, on va en parler juste après. Je vais prendre une question. Vu que sur le salon web, il y a la question de Stéphane qui demande « Que dire à la direction d'un système d'information d'une grande entreprise quand l'argumentaire principal est de trouver une personne entité sur qui taper en cas de problème ?» C'est le fameux argument « Quand je prends du Microsoft ou de l'IBM, je sais sur qui taper. » Alors, quand on prend du Xwiki, on tape sur qui ?
Ah ben, on tape sur Xwiki, voilà. Il n'y a pas de problème.
Mais plus globalement, quelle est la réponse ? Voilà.
Non, alors ça dépend.
Ça dépend
Alors, je ne sais pas exactement dans quel contexte les gens présentent ça. C'est-à-dire que, est-ce que c'est un employé de la DSI qui veut mettre du logiciel libre dans sa DSI, dans son entreprise, et les gars lui disent « Non, mais tu vas pas mettre du Nagios parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. »
Je suppose que l'argumentaire, c'est la comparaison entre des entreprises qui sont relativement petites par rapport aux grosses entreprises.
Oui, mais à la rigueur, c'est pas grave. Derrière la plupart des logiciels libres, il y a soit une société éditeur principale. Dans les logiciels d'entreprise, il y en a beaucoup. Il n'y a pas tant de développeurs sur un logiciel libre. On va les compter sur une doigt d'une main. Il n'y a pas besoin de tant de développeurs pour faire un bon logiciel. Il faut déjà se rendre compte de ça. C'est-à-dire que tu peux faire un bon logiciel avec très peu de développeurs. C'est pas le problème. La question est de savoir, est-ce que tu as une entité juridique avec laquelle tu peux traiter ? Alors, parfois, ça peut être un éditeur, parfois, ça peut être des sociétés de services, mais je pense que dans tous les cas, si le seul problème de la DSI, c'est de trouver des entités juridiques pour se garantir un bon niveau de service et savoir sur qui taper, on les trouve, il suffit de payer. Le problème, c'est quand tu essayes de faire la gratuité et avoir quelqu'un sur qui taper. Là c'est normal qu'il n'y ait personne, ça ne peut pas marcher.
D'accord. Alors, n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à notre discussion, les personnes qui nous écoutent, à nous rejoindre donc sur le salon web de la radio, donc le site causecommune.fm, vous cliquez sur le bouton chat et vous nous rejoignez sur le salon dièse libre à vous. Alors, après cette introduction, on va continuer la discussion sur le retour d'expérience concret de Kitsuki en espérant arriver à trouver le temps d'aborder tous les sujets, mais sinon on réinvitera Ludovic. Donc, on a bien compris que le choix de départ de Ludovic et de la société Kitsuki, c'est de le financement de projets libres et avec une éthique, et vraiment du vrai logiciel libre, tel qu'on peut l'entendre. Et donc, comment fonctionne finalement ce financement de logiciel libre ? Comment tu as démarré ? Comment ça fonctionne aujourd'hui ? À quoi tu as recours pour financer le projet ? Est-ce que c'est du support, de la formation ? Est-ce que c'est du subvention ? C'est des donations ? Est-ce que c'est un ensemble de toutes choses ?
Alors, c'est globalement un ensemble de choses, et la première chose avec laquelle on a commencé, c'est le service. J'ai un logiciel, j'ai du code, c'est moi qui l'ai créé. Il manque quelque chose, vous voulez l'utiliser, vous voulez faire quelque chose, vous. Ce logiciel peut en faire partie de ce que vous avez besoin. Et les premiers projets de service qu'on a fait, à la rigueur, ils n'étaient pas forcément, ils auraient très bien pu être faits avec autre chose Kitsuki. Et en fait, c'est petit à petit que nos projets de service et ensuite nos business sont devenus de plus en plus proches de l'objectif d'Kitsuki. Donc, le démarrage d'Kitsuki, c'est de dire vous avez besoin de quelque chose, je peux le faire et je vais le faire avec Kitsuki, ou je vais faire quelque chose et puis moi je vais réutiliser le résultat sous forme de logiciel libre avec Kitsuki. Donc c'est d'avoir finalement un deal avec ton fournisseur, avec ton client,
avec le client.
C'est de dire moi je te fais tu me payes pour faire ton projet et moi je récupère aussi le code. Il y a une partie qui est pour toi et il y a une partie qui est libre, et il y a une partie qui est finalement aussi pour nous, entre guillemets. Et donc petit, on a commencé par faire des projets de service. Alors il y avait quand même une idée hein, derrière le logiciel. Alors mon d'ailleurs mon premier financeur c'est le chômage, hein, comme beaucoup de gens.
Voilà,
comme beaucoup de gens, j'ai quitté la société où j'étais avant avec un deal. J'ai pu fonctionner avec le chômage. Ça m'a financé pendant 2 ans et ça m'a permis de développer le logiciel. Donc il y avait un logiciel qui avait un objectif, qui sert à quelque chose. Diffusé sous forme de logiciel libre, il lui manquait pas mal de choses. Les premiers clients ont dit est-ce que vous pouvez faire ci, est-ce que vous pouvez faire ça, et on s'est fait payer pour faire ces éléments de service. Ça c'est le premier élément.
Alors c'est intéressant sur ce premier élément, c'est que tu expliques quand même donc que des entreprises t'ont payé pour ajouter des choses dont elles avaient besoin, tout en t'autorisant à le reverser, en tout cas partiellement, en tant que logiciel libre.
Et en fait, on le mettait quasiment comme deal
du contrat.
C'est-à-dire, notre logiciel, il est en licence LGPL. Alors, au début, il était même GPL. De toute façon, vous allez devoir, quand on va faire des choses sur le logiciel, ben, on va respecter la licence.
Alors, on va pas rentrer dans le détail, effectivement, des licences libres. D'ailleurs, on consacrera une émission à ce sujet-là, mais... Ce sont des licences qu'on appelle des licences à réciprocité qui, quelque part, encouragent, en tout cas, à reverser dans le pot commun du développement. Et ce qui est intéressant, c'est que des entreprises ont accepté ce modèle, cet accord, de se dire que je finance un développement parce que j'en ai besoin, mais il va être reversé dans le pot commun, avec aussi l'argument que, en fonction des versions de l'évolution de XWiki, c'est... fonctionnalités vont rester et donc ça profite à tout le monde en fait.
Ouais. Et ça d'ailleurs ça a continué même après hein. C'est-à-dire que régulièrement on nous paye des fonctionnalités qu'on reverse au pot commun et les clients comprennent assez bien que c'est leur intérêt que ça aille dans le pot commun parce qu'en fait ça va être maintenu et puis parfois on peut même arriver à faire payer une fonctionnalité par 2 clients différents. C'est-à-dire ils partagent le coût. Donc on propose la fonctionnalité à quelqu'un. Et puis ensuite, il y en a quelqu'un d'autre qui finance une autre partie où on fait partager le coût de la fonctionnalité.
Ça a fonctionné dès le départ. Les entreprises ont dès le départ, parce qu'on rappelle,
non,
hein,
non,
dans les
2003, 2004, c'est plutôt dans le cadre d'un projet pour faire un objectif. Et à un moment donné, on est arrivé à des fonctionnalités. Amazon, par exemple, ils ont payé une grande fonctionnalité du logiciel XWiki. Donc ils ont payé. Amazon utilise XWiki, mais ils nous ont aussi payé. Une roadmap, quasiment une année de roadmap. Donc c'était un deal de 150 000 euros de financement du produit.
D'accord.
Donc on peut et on a eu des financements de l'éditeur WYSIWYG pour remplacer l'éditeur WYSIWYG. On a
Alors,
eu des
WYSIWYG c'est l'éditeur WYSIWYG, c'est un éditeur graphique, on va dire, ou tout ce que
visuel.
Vous tapez... Visuel, voilà.
Éditeur
voilà. Visuel qui apparaît... Ouais, d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, peut-être, j'aurais peut-être une question quand on parle de CryptoPad, parce que c'est pas la même licence pour CryptoPad que pour XWiki, donc peut-être que tu nous expliqueras le changement de licence à ce niveau-là. Alors, je regarde le salon web... ça discute sur le salon web, justement, sur l'amalgame logiciel libre et gratuité. Et le temps passe super vite, on va faire une pause musicale. Alors que je retrouve la pause musicale, elle est où la pause musicale? Elle est là, mon petit papier. Nous allons écouter Fear par Lemino. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Fear par Lemino, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org, et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous parlons toujours du financement de logiciels libres avec le retour d'expérience de la société XWiki avec son fondateur Ludovic Dubost. Avant la pause musicale, nous parlions de la partie service support. Et une question pour relancer un petit peu sur cette partie-là, est-ce que ça fonctionne sur le long terme, cette partie service, support, est-ce que ça permet de grossir, Ludovic Dubost ?
Alors le service c'est très bien, mais le problème effectivement c'est que c'est pas facile de grossir, parce que si on embauche, en fait il faut embaucher pour pouvoir faire plus de services, et si du jour au lendemain vos clients vous achètent plus de services, vous avez plus de revenus et vous avez plus de quoi payer les personnes que vous avez embauchées. Donc en tant qu'entreprise, c'est pas facile. Donc on peut le faire avec des freelances, mais c'est très difficile aussi. Donc c'est problématique. Donc ce qui est important quand on est un éditeur de logiciels, c'est de se focaliser sur le revenu produit. Comment on génère du revenu produit ? Le service, c'est super pour démarrer. Ça permet de démarrer, de partir de zéro et de financer doucement, petit à petit, son business. Mais c'est pas facile à scaler.
La mise à l'échelle
et monter à l'échelle et de grandir sur ce revenu là. Donc nous dès le début on s'est posé la question, il est hyper important de vendre un revenu récurrent, et donc ça c'est le support. Donc le premier type de revenu récurrent qu'on a vendu, c'est le support. Donc c'est d'associer à nos projets de service un contrat de support. Alors justement, une chose qu'on a fait plutôt tardivement, c'est différencier le prix de service si le client prend ou pas du support. Au début, on prenait tous les clients et on différenciait pas les clients. Même tarif pour tout le monde. Bah maintenant, si vous prenez pas de support, c'est 50% de plus sur le prix du service.
D'accord.
Une deuxième chose qu'on a fait pour mettre en avant les offres de service de support, c'est de dire vous avez un prix pour 3 ans de support et c'est plus cher si vous prenez qu'un an. Donc si vous nous suivez dans le long terme,
fidélité vous permet de payer moins cher.
C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels font ça. C'est-à-dire, quand mon commercial il est venu au début d'XWiki m'apporter un peu cette expérience des grands éditeurs de logiciels, c'était 3 ans pour le prix de 2, 5 ans pour le prix de 3. Alors, c'est exactement la même chose en fait. Nous, ce qu'on fait avec 30% de moins si c'est 3 ans, mais en fait, c'est pas présenté de la même manière. Et c'est-à-dire que finalement, on présente le fait que si vous nous accompagnez sur le long terme, voilà, on vous fait pas le même prix. Et c'est la même chose avec l'augmentation du 50% de support. Et le fait d'avoir défini ces politiques-là sur notre site et dans notre politique commerciale, fait qu'on on engage la discussion sur le logiciel libre avec le client. Et pour moi, ça a été quelque chose de très important. Et c'est assez récent. On a démarré ça en 2016-2017. Près de 10 ans après, justement, en changeant un peu cette façon de parler du logiciel libre à nos clients. Avant, on avait presque tendance un peu à cacher le fait qu'on faisait du logiciel libre, parce qu'on avait peur, finalement, quelque part, c'est assez gratuit à côté. Alors, donc maintenant, on engage frontalement la discussion du financement, finalement, du logiciel libre.
Et t'en fais un axe de vente, en fait.
Et un outil de vente pour expliquer, vous devez payer pour nous accompagner parce que vous faites partie de l'existence du projet.
Alors, tu parles des structures clientes. J'aurais une petite question sur la gouvernance du projet, parce qu'on a bien compris, donc XWiki, tu l'as créé initialement. Maintenant, c'est une société avec une quarantaine de personnes. Alors, est-ce que vous avez des contributions externes? Et est-ce que dans l'évolution du projet, dans sa feuille de route, c'est XWiki qui décide de tout, ou les contributions externes, enfin les personnes contributrices externes, participent aux prises de décision?
Alors, XWiki, on a fait un choix de séparer en fait le projet libre de la société. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est de lui donner un nom différent. Alors, on s'est gardé en fait pour la société une sorte de petit avantage, c'est qu'on a le même nom que le projet libre. Par contre, on a une gouvernance différente entre la société et le logiciel libre. Et le logiciel libre, il est sous gouvernance Apache. Méthode fondation Apache. Voilà. C'est-à-dire les gens qui codent, qui participent au code, peuvent voter. Alors maintenant, ce qui est compliqué dans le domaine du logiciel libre d'entreprise, c'est qu'il n'y a pas tant de contributeurs que ça. C'est-à-dire, alors il y en a, hein. Il y a des contributeurs actifs, un peu actifs, mais ils ont rapidement pas l'activité d'un employé permanent. Et en fait, ils ont du mal à suivre. Donc c'est pas facile. Et par contre, il y a des contributeurs qui contribuent du bug, qui contribuent du test,
de la correction de bugs.
La correction de bugs, ou même juste le fait de les signaler.
À les signaler, oui.
C'est une contribution qui a beaucoup de valeur. Ils ramènent l'information auprès de la communauté. Et donc nous, on a une approche très ouverte vis-à-vis de toute personne qui veut participer dans le projet. Par contre, et c'est le cas de pas mal de projets libres d'entreprises, c'est que c'est difficile d'avoir un nombre de contributeurs élevé. C'est-à-dire que rapidement, c'est l'entreprise principale qui fournit le maximum de développeurs. C'est le cas de Drupal aussi, par exemple,
Drupal, c'est pour faire
qui
des
pourtant
sites
a une communauté bien plus grande que XWiki encore.
D'accord. On va continuer sur le financement et le retour d'expérience d'XWiki, notamment sur la partie, un point intéressant, sur l'appel de répondre à des appels de financement de projets de recherche français et européens. Tu l'as utilisé à la fois pour XWiki et CryptoPad. Peut-être l'occasion aussi d'expliquer un petit peu CryptoPad et aussi les donations, parce que c'est un modèle complémentaire.
Oui, alors... les éditeurs de logiciels ont la chance en Europe de pouvoir faire appel à des fonds publics. Et qu'on soit éditeur de logiciels libres ou pas libres. Moi, j'encourage toute personne qui veut développer des logiciels de faire le plus possible appel à ses fonds publics. XWiki, dès 2006, a commencé à participer à des projets de recherche, d'abord collaboratifs. En fait, on a collaboré avec Mandriva à l'époque. Qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui.
Distribution GNU Linux à l'époque.
Voilà, maintenant il y a Magea qui est devenu Magea.
Exactement.
Et donc on est rentré dans ces projets de recherche collaboratifs qui entre autres sont assez accueillants vis-à-vis du logiciel libre, parce que finalement pour des fonds publics, financer de la recherche qui va être mise sous forme dont l'application va être mise sous forme de logiciel libre est un point positif.
Il y a une certaine logique.
Voilà, il y a une certaine logique, ça va pouvoir être utilisé plus largement que juste les acteurs du projet de recherche. Parce que l'objectif d'un projet de recherche, c'est pas de financer la R&D d'une société particulière. L'objectif d'un projet de recherche, c'est de faire avancer l'état de l'art d'un côté sur la partie recherche, et puis aussi d'aider quand même des entreprises à émerger dans ce cadre-là. Donc les logiciels libres sont plutôt bien reçus dans ces différents projets de recherche, qu'ils soient français ou européens. Et donc nous, on a pas mal bénéficié de ce type de projet, et on a testé des choses. Et CryptoPad est issu d'un de ces projets de recherche, financé par la BPI.
Banque publique d'investissement.
Voilà, l'objectif, c'était de travailler sur des éditeurs temps réel en ligne, qui était une technologie qui nous intéressait à l'époque que pour XWiki initialement. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de permettre d'éditer dans XWiki en temps réel. Donc on a une extension qui utilise les résultats de cette recherche. Et puis en fait, quand on a développé la technologie, on s'est rendu compte que l'algorithme qui avait été développé n'avait pas besoin du serveur. En fait, c'est-à-dire...
Tout se fait sur le poste client, c'est ça?
C'est ça, que la logique principale se fait sur le poste client, et le serveur ne servait que de relais aux données, mais n'avait pas besoin de les connaître. Et là, on s'est dit, mais on peut chiffrer la donnée. Et le fait de pouvoir chiffrer une édition en temps réel, on l'a vu comme un résultat de recherche vraiment très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à partir de là, on s'est rendu compte qu'on pouvait construire une application collaborative complète à base de ce système de données temps réel synchronisées sans que le serveur puisse connaître la donnée. Et donc, on a décidé de développer CryptoPad. Et la logique de CryptoPad, c'est pas uniquement de faire de l'édition temps réel d'un document, c'est de faire une plateforme collaborative complète, mais à aucun moment, celui qui gère les données sur le serveur ne peut accéder aux données de ses utilisateurs.
En fait, c'est
quelque chose qui existe très peu, en fait, qui n'existe même pas, quasiment pas, sauf pour quelques applications très particulières. Et dans CryptoPad, on fait tout un tas d'applications sur le même modèle.
Alors, pour les personnes qui veulent tester, en l'occurrence, donc c'est cryptopad.fr, c'est ce qu'on appelle le zéro connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, le serveur n'a aucune connaissance des données qui sont éditées, parce que tout se passe sur le poste client quelque part avec du chiffrement.
Au départ, c'est un Framapad. Hein.
Au départ, c'est un Framapad, sauf que c'est une extension qui permet d'avoir de la collaboration, de l'édition collaborative, mais vraiment avec du chiffrement et sans connaissance sur le serveur des données. échanger. Et donc ça, c'est le point de départ, donc, c'est un financement de projet de recherche français. Donc.
Tout à fait. Donc au départ, c'est un financement de projet pour XWiki de technologie. Dans le cadre de ce projet, on a dit, on va faire un deuxième projet. Il n'était même pas prévu, en fait, au départ, de lancer en tant que produit. L'objectif, c'était de lancer des prototypes. Et puis, on s'est rendu compte que c'était viable. Et donc, on a décidé de le lancer. Mais alors, un an avant la fin du projet de recherche, on s'est dit, mais comment on fait pour le continuer? Et donc, on a décidé de faire appel à de la donation et de faire des souscriptions. Donc en fait, CritPad, c'est un logiciel libre qui a une version gérée par nous qui s'appelle CritPad.fr. C'est notre instance CritPad, un peu comme Mastodon a son instance. Et en fait, si vous dépassez 50 mégas, faut payer. Et en fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait faire les souscriptions et les donations en même temps. Et qu'on allait expliquer en fait l'importance de financer le projet.
D'accord.
Et donc l'aspect donation était très important pour expliquer pourquoi il n'était pas gratuit le service CritPad.fr et pourquoi on encourageait de nous payer d'une façon ou d'une autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu que quand on a lancé les donations et lancé les explications autour des donations, ce qu'on a fait sur Open Collective, qui est un service très intéressant pour justement demander des fonds pour du logiciel.
Donc justement, en une phrase, Open Collective.
Open Collective, c'est une plateforme où on peut créer son collectif pour financer quelque chose qui est libre. Mais ça peut être pas forcément que du logiciel. On peut aussi décider de financer une conférence, par exemple.
D'accord. Et ça permet de gérer les donations, etc.
Et ça gère les donations et on peut prendre des paiements. On voit qui a payé. Et alors, moi, ce que j'aime bien dans Open Collective par rapport à d'autres systèmes aussi qui ont été lancés, c'est que c'est orienté sur finance ouverte. C'est-à-dire présenter, l'objectif, c'est soyez ouvert, en fait. Présenter de la donnée transparente sur votre projet. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant et c'est une des raisons pourquoi j'ai bien aimé cette plateforme. Et donc c'est ce qu'on fait avec CritPad, c'est qu'on a décidé au passage d'ouvrir les finances de CritPad. Alors pas les finances complètes d'XWiki, c'est compliqué, ça nous prendrait beaucoup de temps et pour le moment c'est compliqué de le faire. Mais on a pris le budget de CritPad et on a ouvert les finances de CritPad, incluant non seulement les fonds qu'on obtient par Open Collective, les fonds qu'on obtient par les souscriptions sur CritPad.fr ou les fonds qu'on obtient par des financements de recherche. Et donc, et pour finir, ce qui était très intéressant, c'est que le fait d'avoir ouvert et expliqué les donations, la partie donation, eh ben, ça a augmenté les souscriptions.
C'est-à-dire quand tu expliques à quoi sert l'argent, ça augmente le don.
Pas que le don.
Les souscriptions aussi.
Les souscriptions aussi.
D'accord.
C'est-à-dire que les gens, il y a des gens qui ont payé le service alors qu'ils n'ont pas besoin de payer le service.
D'accord.
C'est-à-dire qu'ils pouvaient très bien continuer à utiliser la version gratuite, mais ils ont décidé de payer. Et quand on a un sondage aujourd'hui pour demander aux gens comment vous utilisez, une partie des gens ont dit j'ai payé une souscription parce que je voulais supporter le projet. Donc et pas parce que j'avais besoin de le payer. Donc c'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer un peu comment ça fonctionne et comment réussir à payer. Alors pour finir, CritPad a aussi obtenu des fonds. Alors ça suffirait pas aujourd'hui les souscriptions. Aujourd'hui on a besoin de multiplier par au moins 10 pour être capable de payer les deux personnes qui bossent sur CritPad. Alors ce qui est intéressant dans le cas de CritPad, c'est que justement à l'opposé d'XWiki, on fait pas du tout de service. Et pour le moment, on se dit si on voulait, on va peut-être pas le faire du tout.
D'accord.
C'est-à-dire que on va essayer de rester très produit, tout dans la même livraison et pas de spécifique ou de choses autour. Même si et on fait même pas d'entreprise, c'est-à-dire qu'on n'a pas de contrat de support pour entreprise. On ne vend que des souscriptions en cloud et des donations. Et l'objectif, c'est d'essayer aussi. Et donc, par contre, on a besoin de très peu de personnes. C'est-à-dire qu'on a deux développeurs. Ils sont trois aujourd'hui dans l'équipe parce qu'on a une troisième personne. En fait, c'est le problème, c'est comment on finance cette petite équipe. Alors, à l'intérieur d'XWiki, donc l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de financer les frais fixes, etc. Mais ça suffirait pas aujourd'hui d'être uniquement sur les souscriptions, les donations, parce que pour le moment, on est à 10 000 euros. Et on estime être capable d'atteindre 20 000 cette année. Sur l'année 2020. Donc on double, ce qui est déjà bien, hein. C'est-à-dire que doubler d'une année sur l'autre, c'est pas mal. Et ça suit assez bien l'usage de CritPad. C'est-à-dire que notre analyse, c'est que il faut qu'on multiplie par 10 CryptPath pour pouvoir atteindre 100 000 euros. Et avec 100 000 euros, on peut commencer à payer des vrais salaires.
D'accord.
Par contre, entre-temps, il faut qu'on trouve d'autres financements. Et alors là, nous, on a trouvé des financements avec Next Generation Internet, qui est un fonds européen géré par NLNet, qui est une fondation hollandaise et qui finance du logiciel libre. Et là, j'encourage les gens à aller regarder ça. On mettra les liens dans les résumés. Et en fait, on peut obtenir des fonds de 50 000 euros qu'on soit une entreprise, un particulier, pour un logiciel libre qui répond aux objectifs du fonds. Ça s'appelle les cascade funding. C'est un nouveau système de financement. Financement en cascade. L'Europe donne 6 millions à une organisation qui le redistribue sous forme de petits paquets. Et ça, c'est un mode de financement qui est vraiment très intéressant. Et nous, on a foncé là-dessus avec CryptPath qui correspondait bien aux besoins, au sujet qui était proposé. Et donc, on a foncé là-dessus. Et là, j'encourage les gens à aller voir ces types de financement.
D'accord. Alors, le temps a filé super vite. Est-ce que tu te sens de résumer en moins de 2 minutes les éléments clés sur ce sujet de financement? Ou on passe directement à la dernière question bonus?
Non, je peux résumer en 10 minutes. Alors, la première chose que j'aimerais que les gens retiennent de la problématique de financement du logiciel libre, c'est déjà qu'on peut se financer. C'est-à-dire qu'il y a plein de sources de financement, à commencer par le service. On peut développer du logiciel libre, on peut vivre de faire du service. Alors, on va pas devenir riche, il faut être clair. Mais ça doit pas, il faut pas que ça soit l'objectif. Il faut pas faire du logiciel libre dans l'optique de se dire qu'on va devenir riche. Il faut faire du logiciel libre parce qu'on a envie de faire du logiciel libre et parce que c'est le boulot qu'on a envie de faire tous les jours. Et donc la première chose, c'est qu'il y a des financements. Par contre, si on veut pouvoir avoir un peu plus de moyens de personnes, c'est-à-dire dépasser 2-3 ou d'être juste dans son coin en train de trouver des financements, ce qui a aussi un intérêt parce que quand on grossit un peu l'entité, on peut aussi demander plus de choses y compris aux fonds publics. On peut pas demander des fonds publics en étant tout seul à part NGI qui est intéressant. Si on veut pouvoir grandir, avoir un peu plus d'impact, il faut aller vers le produit. Et donc, faut trouver des moyens de vendre du produit. Donc, le support, les souscriptions, les donations, de vendre le travail qui est fait sous forme de logiciel libre.
D'accord. Donc, en combinant plusieurs méthodes, on arrive à faire une société qui existe depuis 15 ans et qui se développe. Avant la dernière question bonus, je prends une dernière question sur le salon web. Alors là, il faudra vraiment répondre en 30 secondes. Une question de Anne Lotte qui sera dans le sujet suivant. Est-ce que le temps de recherche de financement ne prend pas le pas sur le temps de développement du code? Alors là, en 30 secondes.
Non, ça prend quand même pas le temps, mais oui, il est vrai que parfois on se sent un peu, à certains points de vue, un peu comme une ONG. C'est-à-dire qu'on sait d'une ONG qu'en moyenne, elle passe 15-20% de leur temps à chercher des fonds. Et oui, c'est vrai, on passe un certain temps à chercher les fonds, mais ça vaut le coup. C'est-à-dire que c'est aussi le seul moyen de grandir. Alors maintenant, si on arrive à bien cibler ces actions, on arrive à les amener dans la bonne direction.
D'accord. Alors dernière question, je précise qu'on a du timing parce que tout simplement le sujet d'après étant enregistré, on est obligé de se finir à un certain temps pour ne pas dépasser. Un coup de cœur de lecture ou autre, je crois que tu voulais nous parler alors très rapidement d'un livre auquel tu as participé, sur lequel tu étais interviewé, qui s'appelle donc « Déclic » de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques. Donc là, pareil, en 30 secondes.
Oui, alors il est sorti il y a 3 semaines, hein, si je me trompe pas. Moi, j'ai eu la chance de faire partie des interviewés et de ce livre. Et ce que je trouve très intéressant dans ce livre, c'est que donc il présente en fait comment vivre dans le numérique, comment utiliser le numérique sans tomber dans le piège des géants du web. Donc on est tous sensibles aujourd'hui, on entend tous les problèmes autour des GAFAM, donc les GAFAM, Google, Apple, Facebook et compagnie, et comment on peut profiter des services numériques sans tomber dans tous les problèmes associés à cette domination massive de l'internet par ces acteurs. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ce livre, il consacre pas tout le bouquin à râler. il consacre aussi le bouquin, une partie du bouquin, à montrer les solutions qui existent. Et donc, c'était un peu dans ce cadre-là aussi que j'avais été interviewé. Justement, un des pans qui est repris de mon intervention, c'est le financement par les fonds publics, recherche, etc. Et donc, il y a cette partie-là. Et puis, il liste aussi des solutions. Regardez, il y a ça comme logiciel qui existe, comme alternative.
D'accord, donc c'est le livre Déclic de Maxime Gedge et Anne-Sophie Jacques, édition Les Arènes, 240 pages. Et effectivement, c'est « Et s'il existait un autre Internet respectueux de nos libertés avec des solutions pratiques ?» Donc je vous encourage à le commander, à le lire. Mais écoute, merci Ludovic. Donc c'était Ludovic Dubos de la société XWiki pour ce retour d'expérience sur le financement de logiciels libres. Je pense qu'on aura l'occasion de te réinviter pour une prochaine émission. Je te souhaite une bonne fin de journée.
Merci Frédéric.
Nous allons faire une pause musicale. Alors nous allons faire une courte pause musicale, c'est Black Bird par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
Cause Commune.
D'écouter Blackbird par Emmanuel Saraco, disponible sous licence Art Libre. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec l'interview de deux personnes du Consortium international des journalistes d'investigation qui a reçu récemment un prix du meilleur projet libre remis au salon Paris Open Source Summit en décembre 2019 pour le logiciel DataShare, une plateforme d'indexation et de partage sécurisé d'informations pour les journalistes d'investigation. Et Ludovic Dubost me confiait pendant la pause en fait qu'il avait fait partie du jury qui avait remis ce prix. Donc ça tombe bien, donc nous allons écouter l'interview de Anne Lhôte et de Bruno Thomas et on se retrouve juste après. Nous sommes au salon POS, donc avec Anne Lhôte et Bruno Thomas du consortium ICIG, qui vient de recevoir un prix du meilleur projet logiciel libre. Alors déjà, première question, une présentation personnelle, Anne et Bruno, qui êtes-vous ? Anne.
Bonjour, oui, Anne, je suis développeuse donc, à l'ICIG, je m'occupe en fait du front-end, donc vraiment tout ce qu'on voit à l'écran et les interactions sur l'écran, c'est moi.
Bruno.
Et Bruno, ben moi je pourrais me définir comme un software craftsman. Et donc c'est un artisan logiciel, j'aime bien ce mot d'artisan. Et je suis full stack, donc je fais à la fois le côté serveur et aussi un petit peu l'interface utilisateur.
D'accord. Alors première question, c'est quoi l'ICIJ ?
Alors c'est International Consortium of Investigative Journalists. Donc c'est un consortium qui rassemble environ 250 journalistes autour du monde et avec un staff d'une trentaine de personnes qui essayent de partager des enquêtes pour avoir un impact plus important à l'international sur des sujets qui sont souvent éthiques comme l'évasion fiscale ou l'oppression comme les Ouïghours il y a peu de temps pour les China Cables, le dernier dossier qui est sorti.
D'accord. Et vous avez travaillé aussi sur les Panama Papers, c'est ça ?
Tout à fait, c'est le plus connu avec 19 millions de documents et donc c'est celui qui a mis l'ICIJ sur la scène médiatique.
D'accord.
Grâce au prix Pulitzer.
Alors, donc vous avez reçu, donc le consortium a reçu le prix, le célèbre prix Pulitzer, qui est un peu plus connu que le prix que vous avez reçu aujourd'hui. Quels sont les médias français qui, enfin, combien de médias français qui participent à ce consortium, Anne ?
Eh ben, habituellement, l'ICIJ s'attache à contacter les trois types de médias, les médias radiodiffusés, télédiffusés et la presse imprimée. Et du coup, en France, ce sont Le Monde, Radio France et France Télévisions qui font partie du réseau ICIJ.
Quelqu'un veut compléter ? Non ? Ok.
C'est la première ligne.
Ah, il y a quoi ? Il y a première ligne, c'est ça ?
Oui, pardon, c'est première ligne qui fait partie du réseau ICIJ.
D'accord. Donc je précise qu'on est en public, donc il y a d'autres personnes qui souffrent et qui aident les réponses. Alors là, on est à un salon logiciel libre. Donc on a une remise des prix des acteurs et actrices du logiciel libre. Et on pourrait se demander pourquoi un consortium international de journalistes est là. Et en fait, vous avez reçu un prix donc, pour un projet logiciel qui s'appelle DataShare. Alors déjà, première question, à quoi sert DataShare dans le cadre du consortium ? Qui veut répondre ? Bruno ?
Oui, alors ben, quand on reçoit 19 millions de documents, comme c'était le cas pour les Panama Papers, on ne peut pas demander aux journalistes de les ouvrir un par un. Du coup, on développe des outils, une sorte de, on pourrait dire, mini Google, enfin un moteur de recherche, qui permet aux journalistes de retrouver de l'information et de savoir de quoi parlent ces documents, qui est concerné, où ça se passe, etc. Donc on fait à la fois de l'indexation et on extrait aussi des entités nommées qui permettent des personnes, des organisations, des lieux, qui permettent de mieux comprendre le corpus de documents de façon accélérée.
D'accord. Et donc cet outil-là n'existait pas pour vos besoins, Anne ?
Il y avait des outils qui préexistaient, mais on a des besoins qui sont un peu spécifiques et qui nous ont imposé de développer notre propre outil, notamment des problèmes de scalabilité, c'est-à-dire que on a
de mise à l'échelle, quoi.
Ouais, exactement, parce qu'on reçoit des quantités, enfin c'est des terras. Il faut bien que l'utilisateur s'imagine que ce sont des terras entiers de documents avec des quantités vraiment impressionnantes et du coup on a dû adapter les outils ou disons les concurrents qui existait ne pouvait pas répondre à de tels besoins et on a dû adapter les outils.
D'accord, donc vous avez adapté des outils et pour un besoin personnel, mais un truc qui est important, c'est que vous avez choisi finalement de le mettre en logiciel libre. Alors, quelle était la raison ou les raisons principales ?
Bah, tout simplement parce qu'on s'est dit que si nous on avait ce besoin, d'autres avaient probablement un besoin identique et peut-être n'avaient pas les ressources nécessaires pour répondre à cette question.
On en avait parlé un petit peu aussi à l'époque avec Julien qui était un des développeurs et puis Pierre aussi, notre CTO, qui est très défenseur du logiciel.
Alors CTO, c'est le directeur technique, on va dire.
Directeur technique, tout à fait, merci. En fait, il existe une certaine congruence entre le fait de vouloir rendre l'évasion fiscale transparente, de rendre le monde, on va dire, plus transparent pour le citoyen lambda que nous sommes tous, et de participer au commun numérique. C'est important aussi pour nous de participer à ces initiatives-là.
D'accord. Et le consortium, c'est un consortium informel ou c'est une structure privée ? Est-ce qu'il y a vous êtes bénévole ou vous êtes salarié dans ce consortium ?
Ouais, on est salarié. Alors nous, on est salarié du consortium, au même titre qu'on est une trentaine ou quarantaine de personnes actuellement, ça grandit vite. Mais la structure, c'est quand même une ONG, c'est-à-dire que c'est pas un but lucratif. Le but, c'est pas vraiment de gagner de l'argent. Le but, c'est plutôt de mener des combats à l'international et de, bah, pour nous en tout cas, la Cellule Technique, d'offrir des outils aux journalistes pour mener leur combat.
D'accord. Alors, une spécificité de ce prix des acteurs du livre, si j'ai bien compris, c'est qu'on soumet une candidature. Ce n'est pas un jury qui choisit parmi tous les projets qui existent, donc vous avez soumis une candidature. Pour quelle raison vous avez soumis cette candidature? Est-ce que c'est pour faire connaître le projet? Est-ce que c'est pour faire connaître le consortium?
Je pense que quand on développe un logiciel libre, ou en tout cas en tant que développeur, on a vite tendance parfois à s'isoler derrière son ordinateur et à créer des outils qui parfois répondent à des besoins qu'on a nous-mêmes créés. Et je pense que c'est un peu parfois un piège. Et en tout cas, moi, ce dont j'ai à cœur, enfin, je suis convaincu que DataShare, c'est un produit super utile et que c'est un outil très finalisé. C'est une de nos problématiques, vu qu'on travaille avec des journalistes, ils sont pas forcément très tech-friendly, enfin, ils sont pas très habitués à utiliser des outils tech au quotidien. Et on cherche tout le temps à rendre l'outil le plus fluide possible, le plus utilisable possible, notamment grâce à notre UX designer.
Et UX designer, c'est quoi?
C'est une personne en fait qui va étudier l'interface pour répondre à ce besoin-là, la rendre la plus fluide, la plus intuitive possible.
Et une personne utilisatrice.
Ouais, exactement. Et du coup, je suis convaincu que notre outil peut être pris en main par beaucoup de personnes qui auraient un besoin proche. Et parfois, ce qui manque un peu, c'est de faire connaître au monde extérieur, c'est-à-dire extérieur à l'ICIJ, l'existence de cet outil et sa facilité de prise en main. Et du coup, ici, c'était candidater ici et intervenir ici au poste, c'était une des façons de présenter notre outil qui est actuellement assez stable et utilisable par tout le monde et voilà, de le faire connaître simplement.
D'accord. Avant d'oublier, on peut le récupérer, on peut le tester où cet outil? Sur quel site?
Alors sur datashare.icij.org, tout simplement. Et ensuite, on peut même il y a un document utilisateur très bien fait qui explique comment l'utiliser et même l'utiliser en mode serveur, c'est-à-dire pour collaborer sur des corpus de documents partagés, ce qu'on fait nous au sein de la CIJ.
D'accord. Et donc, vous espérez, un espoir, c'est d'avoir des gens, des structures qui vont l'utiliser et pour des besoins que vous n'aviez pas forcément prévus. Et peut-être des personnes aussi qui vont contribuer finalement à l'améliorer au code. C'est un peu de votre espoir, cette candidature, faire connaître le projet pour avoir des contributions. Bruno ?
Tout à fait, ça c'est évidemment un des aspects centraux du logiciel open source, sachant que DataShare, il a été fait pour deux modes. Il a un mode qu'on appelle standalone, donc qu'on installe
sur un
poste de travail. Et l'avantage, c'est qu'on peut travailler sans être en ligne, donc ce qui permet à des reporters de travailler en toute sécurité. Et il y a un deuxième mode d'utilisation qui est en mode serveur, comme je disais tout à l'heure, où on partage des documents à plusieurs.
D'accord.
Donc, ouais, juste pour compléter, effectivement, ce qu'on attend, c'est que les gens l'utilisent, que les gens reviennent vers nous en nous peut-être soit en nous demandant de développer de nouvelles fonctionnalités, soit en critiquant ou en pointant du doigt ce qu'on pourrait améliorer. Le code source, le principe de l'open source, c'est que le code source est disponible sur une plateforme de partage de code qui est en l'occurrence GitHub. Je sais pas si c'était des plateformes, mais c'est GitHub. Et voilà, donc les issues, donc les commentaires sont les bienvenus, et les pull requests, donc les contributions de code, sont évidemment les bienvenus aussi. Et voilà, toute remarque d'amélioration sera les bienvenues et nous aidera à faire évoluer l'outil pour tout le monde.
Super. Dernière question, est-ce que vous utilisez d'autres outils logiciels libres dans le cadre du consortium? Je pense par exemple à SecureDrop pour permettre à des lanceuses et lanceurs d'alerte ou des sources de vous soumettre des documents de façon sécurisée et anonymisée.
Oui, alors comme on l'a déjà dit à l'ICIJ, l'open source est vraiment important et dans notre ADN. Donc SecureDrop, on l'utilise évidemment pour partager des données et pour soumettre, pour que d'autres personnes puissent nous partager des sources qui pourraient être à l'origine d'enquêtes plus approfondies, mais également on utilise une version en tout cas adaptée de Discourse, qui est un outil de discussion, en fait, de partage, pour justement quand tous les journalistes de l'ICIJ mènent une enquête, pour qu'ils puissent discuter sur les différentes ramifications de cette enquête, et etc.
Discours, c'est un sort de forum.
Exactement.
D'accord.
Merci.
Ok. Bah, en tout cas, et vous avez reçu le prix, donc félicitations.
Merci.
Est-ce qu'il y a des événements où vous serez présent bientôt, ou est-ce que vous avez des annonces à faire, ou des besoins? N'hésitez pas. Si...
Alors, des besoins, oui. On cherche un autre développeur, ou une développeuse.
Avec quelles compétences?
Full stack, plutôt Java. Donc full stack, ça veut dire à la fois serveur et interface.
D'intervenir à tous les niveaux de la programmation.
Voilà, exactement. Expérimenté, et si possible, qu'ils connaissent un peu l'agilité, ils sont bienvenus.
Et le poste doit être basé quelque part, précisément?
De préférence à Paris, mais ça peut être à distance.
D'accord.
L'annonce est sur le site à icij.org.
D'accord. Bah écoutez, félicitations, donc c'était le consortium ICIJ avec Anne Lotte et Bruno Thomas. Et puis on va suivre la suite de vos aventures dans le logiciel libre. Et puis surtout, on attend avec impatience évidemment les prochaines révélations. Mais on va pas vous demander sur quoi vous travaillez actuellement. En tout cas, vous faites vraiment une action d'utilité publique. Merci à vous.
Merci à vous et merci à April.
Eh bien, c'était l'interview donc de Bruno Thomas et Anne Lotte du Consortium international des journalistes d'investigation. Et si vous voulez en savoir plus sur DataShare, c'est dataShare.icij.org. Nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces, dans le cadre de notre émission, un point important concerne la post-production, le traitement des podcasts. En effet, ceci, les podcasts resteront la mémoire et la trace des émissions. Donc, c'est pour ça qu'il faut apporter un soin particulier à leur traitement avant la mise en ligne. Actuellement, le traitement est fait par Sylvain Kutzmann, un bénévole à l'April. Ben, ce serait bien si on pouvait avoir au moins une personne de plus pour répartir le travail. Donc, si vous avez de l'expérience, des compétences, des idées, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi relayer notre appel qui est disponible sur le site de l'April, april.org. Si vous souhaitez mettre des visages derrière les voix des animateurs et animatrices de la radio Cause Commune, eh bien Cause Commune organise son premier apéro ouvert aux auditeurs et auditrices. Donc ça se passera le vendredi 27 mars 2020 à partir de 19h, donc au studio de la radio, au 22 rue Bernard Dimet à Paris, donc dans le 18e. L'apéro est ouvert à toute personne qui souhaite venir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Donc je répète, 27 mars 2020 à partir de 19h au 22 rue Bernard Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Et si vous voulez nous rencontrer au niveau April un peu plus tôt, sachez que nous organisons un apéro April à notre local, donc le vendredi 13 mars, donc 44-46 rue de l'Ouest dans le 14e arrondissement de Paris. Les informations sont disponibles sur le site de l'April, april.org. Écoutez, l'émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Véronique Bonnet, Ludovic Dubost, Anne Lotte, Bruno Thomas, aux manettes de la régie aujourd'hui, Patrick Rezo. Merci également à Sylvain Kutzmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production du podcast. Merci également à Christian Maumont, bénévole à l'April, qui va découper le podcast complet en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les informations utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont bien entendu les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez écouté cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, et faites également connaître le radio Cause Commune, la voix des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 mars 2020 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la question de l'achat de matériel et des logiciels libres, donc matériel, ordinateur de bureau, ordinateur portable et téléphone mobile. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Ah oui, je précise, parce qu'on me dit sur le salon que pour l'apéro, s'inscrire sur le site, donc vous allez sur le site de l'agendadulibre.org, mais je le rappellerai avant l'apéro. Donc nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 mars 2020, et d'ici là, portez-vous bien.